Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible parle de Québec. Alors, on salue tous ceux qui nous écoutent par Internet. Petite annonce, bien, hier soir, on avait lieu la pièce de théâtre « Procès de Dieu » à l'église Chauveau. C'était vraiment une très belle soirée, vraiment bénie. Il y avait peut-être près de 250 personnes réunies, des chrétiens, des non-chrétiens, des gens de nos familles, nos collègues de travail. Et je pense que la pièce a vraiment parlé à tous et chacun, qu'on soit croyant ou non. Je pense que la pièce a vraiment touché le cœur des gens. Et c'était vraiment béni d'avoir toute cette équipe-là qui venait de Montréal pour donner la pièce. Et on salue, on remercie l'Église Chauveau qui a accueilli la pièce pour son hospitalité et aussi toutes les églises qui ont participé à la diffusion. Et un dernier merci à l'équipe d'Éric Perron d'Aujourd'hui l'Espoir qui s'est occupée de la publicité. Donc, merci Éric, si tu écoutes. Ben, si quelqu'un écoute, connaît Éric, ben, transmettez-lui les merci. Notre prochaine soirée de prière, c'est mardi le 9 mai à 19h. Et pour les gens qui nous écoutent par Internet, si ça vous tente de venir écouter le culte en direct, bien, vous êtes les bienvenus à chaque dimanche à 11h15, ça commence. Et puis c'est au 3180 Avenue d'Amour à Sainte-Foy. Sur ça, bien, j'inviterai Pasteur Carl à venir faire la prédication.
Alors, si vous le voulez bien, on va ouvrir en prière. Seigneur, toi, merci pour ce temps qu'on a, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Bénis ta parole, qu'elle puisse nous faire du bien. Encourage-nous, Seigneur. On a tellement besoin que tu nous parles, Seigneur. On a tellement besoin de cette paix qui nous échappe si souvent, Seigneur. Alors, que ta parole puisse nous faire du bien et que ton nom puisse être glorifié dans nos vies et dans ton Église, et on prie dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui nous suivent par Internet, actuellement, on est dans la série de l'Épître de Paul aux Colossiens. On a un petit souci avec notre site web. Alors, il a disparu de la map. Alors, malheureusement, actuellement, on a seulement les messages vidéo. Pour les messages audio, on ne sait pas quand est-ce que ça va être réglé, mais malheureusement, notre site a disparu. On ne sait pas si notre fournisseur s'est fait hacker ou quoi. Mais bon, le mieux, c'est d'être ici parmi nous. Mais si vous ne pouvez pas, il y a la version vidéo et peut-être la version audio bientôt. Alors, le titre du message, c'est que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et je vous inviterai à tourner avec moi dans Colossiens, le chapitre 3. On va lire les versets 8 à 15. Donc, Colossiens, chapitre 3, les versets 8 à 15. Une des références pour ce message, le pasteur Charles Spurgeon, qui est mort quand même il y a plus d'une centaine d'années. J'étudie beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de commentaires bibliques, beaucoup de messages. Et vous allez voir que les problèmes qu'il y avait dans l'Église il y a une centaine d'années n'ont pas changé bien. Donc, Colossiens 3, on commence à lire au verset 8. « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. On a parlé dimanche passé. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de quoi on a parlé dimanche passé? J'avais juste 5 points la semaine passée et quelques sous-points. Racheter le temps. Qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée? Qu'on n'appartenait plus à ce monde, qu'on était ressuscité avec Christ. On a vu dimanche passé qu'un croyant, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Il est maintenant ressuscité et assis avec Christ dans les lieux célestes. Et maintenant, Christ est sa vie. Et vous savez, ce message-là, juste avant d'y arriver, un des premiers signes qu'une personne a mis sa foi en Jésus-Christ et que Christ est sa vie, c'est maintenant qu'il a la paix avec Dieu. Avoir la paix avec Dieu en Christ parle de notre position en lui. Hein? On était pardonné et justifié de toutes les fautes qu'on pourrait avoir. Et personne ne peut prendre ma position en Christ. Maintenant, j'ai la paix avec Dieu parce qu'il s'est passé quelque chose de légal à la croix. Je suis pardonné et justifié. J'ai une position que plus personne ne peut monter. Personne ne peut perdre ce que Christ lui a donné gratuitement. Notre paix avec Dieu est assurée. Nous pouvons maintenant avoir la paix, comment je pourrais dire ça, positionnellement avec Dieu. Et en même temps, on peut ne plus être en paix avec Dieu de façon relationnelle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Votre cas est réglé devant Dieu. Vous ne pouvez plus perdre la paix que vous avez avec Dieu. Et pourtant, on la perd constamment. Et je vais être honnête avec vous, totalement transparent. C'est un message personnel pour moi ici. Je suis quelqu'un qui perd trop facilement sa paix. Je vous allez dire, les pasteurs ne sont pas supposés perdre leur paix, franchement. Eh bien, je ne suis pas tout seul. Charles Spurgeon, lui aussi perdait sa paix des fois. Vous allez comprendre pourquoi. Il l'a dit dans un de ses sermons, si je ne me trompe pas, qui s'est appelé le vent d'Est, quelque chose comme ça, qu'au moment, le dimanche, qu'il a fait ce message-là, que dans la semaine avant, il y avait beaucoup de conflits à l'extérieur de l'Église. Peut-être des troubles dans la société, peut-être des grèves, peut-être des guerres, peut-être des choses semblables, mais qu'à l'intérieur de l'Église, dans les derniers jours, il y avait une multitude de problèmes à l'interne. Puis il va dire, c'est ces mots, qu'il a été confronté à un grand nombre de péchés, de querelles et de fautes. Les gens murmurent, rouspètent, s'agitent et se battent de tous côtés. Imagine les gens qui se battent dans l'Église. Et cela l'a tellement éprouvé qu'il dit que je me sens peu apte à jouer le rôle de consolateur parce que j'ai moi-même besoin d'être réconforté. Écoutez, la job de pasteur, ça peut être pesant des fois. Hein? Quand les gens dans l'église se chicanent, quand les gens... Puis là, il n'y avait pas une petite église, tu sais, ils disaient, une petite église, je chicane facilement. Non, lui, il y avait une très, très grande église. Et il y avait des divisions, il y avait du murmure. Il y avait des gens qui s'agitaient, qui houspétaient, qui murmuraient à un point tel que le pasteur a dit, j'aimerais ça pouvoir encourager des personnes qui souffrent, mais c'est moi qui souffre. Il n'y a rien de plus pesant pour un pasteur que d'avoir des croyants perdre leur joie et leur paix dans toutes sortes de conflits conjugaux, familiaux, d'église ou professionnels. Alors, c'est quoi la... OK, on va se dire, le message n'est pas juste pour vous ce matin, c'est pour moi aussi. All right? Parfait. Alors, c'est quoi la solution pour garder, c'est quoi le remède, la solution pour garder la paix de Christ qu'il nous a donnée, la garder? Et le verset 5 et 15, ça va être notre guide aujourd'hui, c'est « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant. » Et ce matin, on va voir 4 points. C'est déjà mieux que 5. On gagne 20%. Hein? Je vois déjà des pouces qui se lèvent dans l'Assemblée. Donc, nous allons voir 4 points ce matin pour que la paix de Christ règne dans nos cœurs. Premier point, c'est posséder la paix de Dieu. Et deuxième point, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Troisième point, que la paix de Dieu règne dans son Église. Et quatrième point, soyez reconnaissants. Donc, premier point, possédez la paix de Dieu. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Vous ne pouvez pas avoir la paix de Dieu si vous n'avez pas été réconcilié avec Dieu par Christ. Au départ, ça prend ça. Et beaucoup de gens ont la paix, mais hélas, c'est une fausse paix. Hein? C'est la paix d'un caractère mou, d'un caractère doux, de gens qui craignent de déplaire, une fausse paix, qui cherchent à ne blesser personne, qui ruine souvent son possesseur parce qu'il n'est pas capable de s'affirmer. Mais ça, c'est une fausse paix, dit Spurgeon. Certains ont la paix de l'ignorance, et lui, il va rajouter la paix de la stupidité. C'est lui qui le dit, hein? C'est pas moi. La paix de l'indifférence totale. Ce sont les disciples des faux prophètes dans l'ancien temps qui criaient « paix, paix, paix » lorsqu'il n'y avait pas de paix. Ils sont déconnectés de la réalité parce que c'est à leur avantage. Et ils ne poursuivent pas la paix. Donc, le fait que nous devons posséder la paix que nous devons posséder, c'est la paix de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que la paix soit faite entre nous et Dieu. Et il n'y a pas de plus grande paix que d'être en paix avec son Créateur. Un des versets favoris de plusieurs, et dont de moi, c'est Romains 8:1 qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons la paix parce que nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Christ nous a réconciliés avec son Père et nous jouissons maintenant d'une merveilleuse communion avec Dieu à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et ce qui est merveilleux avec cette paix-là, c'est que rien ne peut aller à l'encontre de cette paix. C'est la paix suprême. Même quand votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Parce que comme Jean dit dans 1 Jean 3:20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Oh, que cette paix-là est précieuse! C'est une paix incroyable. Et cette paix-là change la façon dont on réagit aux événements de ce monde. Et ça change aussi la façon dont on réagit à la souveraineté de Dieu. Beaucoup de gens perdent leur paix. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vie que Dieu leur a donnée. Dieu est souverain, mais ils n'aiment pas ça, ce que Dieu fait dans leur vie. Et cette paix-là change la façon dont on réagit à la souveraineté de Dieu. Il y a une merveilleuse paix qui s'installe dans le croyant lorsque nous nous soumettons à sa volonté et à la souveraineté de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en querelle avec Dieu. Ils ne sont pas en paix avec Dieu. Ils ne sont pas complètement soumis à la volonté de Dieu. Ils continuent de se chamailler, de se quereller, de se disputer avec Dieu au sujet d'un être cher qu'ils ont perdu. Ils n'acceptent pas qu'un frère, un enfant ou un parent qui était si proche soit mort. Ils sont en querelle avec Dieu à cause d'une maladie débilitante ou encore de tout autre malheur. Ils ne peuvent pas arriver à pardonner à Dieu, si je puis dire, parce que Dieu a permis à telle et telle chose d'arriver dans leur vie. Ils se mettent à la place de Dieu parce qu'ils pensent qu'ils feraient mieux que Dieu pour eux. Puis ils sont incapables de voir le plan parfait de Dieu dans leur vie, qui très souvent utilise les malheurs de la vie pour nous amener encore plus loin en lui. Se mettre à la place de Dieu, pensant savoir mieux. Et ça, c'est courant partout dans le monde, et c'est courant aussi dans l'Église. J'ai donné déjà cette illustration-là, mais je la trouve merveilleuse. Le pasteur Tim Keller racontait l'histoire de deux femmes à son Église. Leur mari était de mauvais père, et c'est pourquoi leur fils adolescent allait mal. Ces mères, pour ainsi dire, n'étaient pas en paix avec leur mari. Et le pasteur les a invités à pardonner leur mari et à prier pour eux. Hein? Il les a invités à pardonner comme Christ leur avait pardonné. Et ce qui est surprenant, c'est que la femme qui était considérée comme la plus faible dans la foi était celle qui était le plus apte à pardonner son mari. Et la femme qui était la plus forte, la plus active dans l'Église, elle n'y parvenait pas. Et la première femme a pardonné à son mari, elle s'est mise à prier pour lui. Et lui, ça n'est aperçu, il s'est mis à changer. La deuxième femme, elle, a refusé de pardonner. Elle est devenue de plus en plus aigrie. Que s'est-il passé? Eh bien, pour la première femme aimait son fils, mais la deuxième femme avait fait de son fils sa vie. Christ n'était plus sa vie. Si les événements de la vie vous font perdre votre paix, c'est que Christ n'est pas votre vie. Autre chose est votre vie. Et Dieu n'a pas le droit de vous dire que ça, ça ne marchera pas comme ça dans votre vie. Donc, si son fils était malheureux pour cette dame-là, elle était malheureuse. Elle perdait la paix dans son cœur. Elle n'acceptait pas que Dieu lui ait donné un mauvais mari. C'est pour ça qu'elle n'était pas en paix avec Dieu. Maintenant, peu importe l'endroit où Dieu vous a mis, peu importe votre condition, peu importe votre maladie, peu importe votre souffrance, peu importe vos difficultés, vos incompréhensions, vous pouvez avoir la paix avec Dieu parce que vous êtes caché en Christ et que Dieu a un plan parfait pour votre vie. Ce qui nous fait souvent perdre la paix avec Dieu est que Dieu a une volonté puis nous, on en a une autre, n'est-ce pas? Soyons honnêtes, c'est souvent ça, non? Mais c'est seulement lorsque nous abdiquer devant Dieu, qu'on pourrait être réellement en paix avec lui. Vous savez, le plus grand procès de l'univers, le plus grand procès de notre vie a déjà eu lieu à la croix. Et vous avez été pardonné de vos péchés par le précieux sang de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on resterait en conflit avec Dieu pour de petites choses qui sont sans importance dans l'éternité? Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Donne-moi la grâce de m'y soumettre. Et cette paix est appelée la paix de Dieu parce que c'est la paix que Dieu opère dans notre âme. Ça affecte toutes les parties de notre cœur. Vous savez, dans le texte, l'apôtre Paul fait la différence entre le vieil homme et le nouvel homme créé selon Dieu. Le vieil homme, hein, il cherche la chicane. Il n'endure pas les frères et les sœurs dans l'Église. Il a de la misère à s'endurer lui-même. Il se plaît à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, aux conflits et aux divisions qui détruisent la paix dans la communauté des hommes. Mais Dieu a changé le cœur de l'homme nouveau pour que celui-ci recherche la paix d'abord avec Dieu et ensuite avec les autres. La paix qui surpasse toutes les autres paix s'appelle la paix de Dieu. C'est une paix parfaite que rien ne peut troubler. C'est une paix profonde qui surpasse toute intelligence. C'est une paix éternelle qui va nous suivre pour toute l'éternité. C'est la paix où repose mon âme fatiguée et trop souvent anxieuse. Et deuxièmement, que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Je vais taper sur le clou, je vous dis, là. OK? Pour qu'il y ait une paix dans le cœur, il faut, ou ailleurs, il faut qu'il y ait un chef. Ça prend un chef. Ceux qui sont pour la chute de tous les rois, hein, qui sont là pour la chute de tous les présidents, de toutes les autorités et de tous les chefs, peuvent dire adieu à la paix. Vous êtes un anarchique, là, vous n'avez rien compris. Il ne peut pas y avoir de paix sans chef. Là où la tête n'est pas la tête, la main n'est pas la main, l'œil n'est pas l'œil, et rien n'est en soi. Tout ce qui ne devrait pas être est, et tout n'est que misère. Pourquoi? Parce que ça prend un chef. Il faut que quelque part vous ayez la faculté de gouverner. Et si dans votre âme, personne ne gouverne, c'est le diable qui va y gouverner. Vous savez, l'homme qui ne se contrôle pas lui-même est contrôlé par le diable. On sait qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Ça, c'est évident. On va en aimer un et on va haïr l'autre. Mais il est tout aussi certain qu'on doit en avoir un. Qui va régner sur votre vie? Une puissance ou une autre va vous maîtriser. Est-ce que c'est Dieu, votre Créateur, qui va vous gouverner ou ça va être votre ennemi qui va vous gouverner? Est-ce que c'est votre Sauveur qui va vous gouverner ou c'est votre Destructeur? Si la paix de Dieu est dans votre cœur, elle doit régner dans votre cœur et elle doit réprimer toute rébellion. Vous savez, quand il y a une révolte, là, qu'est-ce qu'on fait? On demande au gouvernement et à la magistrature d'intervenir parce qu'ils ont le pouvoir derrière eux pour réprimer toute rébellion. On fait appel au pouvoir légal pour qu'il vienne nous protéger et rétablir la paix, n'est-ce pas? Quand nous perdons la paix de Christ dans notre âme, nous devons dire à Dieu, « Viens, Seigneur, calmer la révolte dans mon cœur. » Si vous sentez que vous avez perdu le contrôle sur vos pensées, si vous sentez que vous ne régnez pas, vous êtes incapable d'avoir la paix, demandez à Dieu de calmer votre rébellion. Seigneur, je suis ballotté dans mon cœur par toutes sortes de circonstances que je n'aime pas. Seigneur, je me querelle avec les gens et avec toi. Seigneur, j'arrête pas de murmurer. Je vois juste du négatif. Viens calmer mon esprit méchant et mécontent. Viens, paix de Dieu, aide-moi dans les luttes quotidiennes afin que je ne pêche pas contre toi par mes excès de colère et que je ne fasse pas des choses que je vais regretter plus tard. Le mot « règne » est mieux traduit par le mot grec « arbitre ». On pourrait traduire que la paix de Dieu soit l'arbitre dans vos cœurs. Et donc, on devrait se soumettre volontiers à l'arbitrage de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Patrick, lui, sait ça veut dire quoi, un arbitre? Ça veut dire quoi être un arbitre? C'est lui qui fait appliquer les règlements. C'est lui qui décide si ce qu'on fait est correct ou non. L'arbitre dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre jeu est celui qui décide si la course des coureurs est valide, si la lutte des lutteurs est réglementaire. Et ensuite, il décide si le concours était ou n'était pas conforme à la loi du jeu. Il peut dire qu'un coup porté en bas de la ceinture n'est pas réglementaire, qu'il y a faute, et on ne peut pas remettre en question sa décision. C'est décidé pour une fois pour toutes. Et c'est l'arbitre qui décide qui est le vainqueur. Sa voix met fin à tout débat. C'est l'homme qui décidait des jeux dont le verdict ne devait jamais être mis en question. Et la paix de Dieu doit faire la même chose dans nos vies. C'est elle qui doit décider de nos actions. On va renforcer le jeu. Je vous le promets. Ça me fait aussi mal qu'à vous, sérieux. Bon, il y en a, ça ne fait pas mal du tout. Vous êtes déjà des gens soumis à Dieu. Donc, vous savez, on doit être résolu à juger toute chose par la paix de Dieu. Que dois-je faire dans ce cas-là? Que dois-je faire dans cette dispute-là d'église ou à mon travail? Que dois-je faire avec cette chicane-là entre voisins? Dois-je m'humilier? Dois-je céder? Qu'est-ce que dit l'orgueil? Non, un homme, ça cède jamais. Je sais que les femmes ne font pas ça. Mais les hommes, ils se disent, non, un homme, ça cède pas. Mais que dit la paix de Dieu? Il dit, cède, soumets-toi. Ouais, mais ils vont me piler sur le dos. Ouais, puis. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, Seigneur Jésus, je vous dis de ne pas résister au mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Si quelqu'un veut te faire un procès, prendre ton manteau, t'enlever ton manteau, bien, donne-lui un deuxième manteau. C'est le Seigneur qui a décidé qu'il est bon de souffrir plutôt que de se venger. Laissons la vengeance à Dieu. Laissons à Dieu de nous faire justice. Nous devrions laisser la paix de Dieu décider à notre place de nos actions. La laisser régner dans nos cœurs de manière à décider de notre conduite et nous amener à être conformes à notre propre paix avec Dieu. En d'autres termes, ne laissons pas la colère nous contrôler. Ne laissons pas l'animosité, les murmures remplir notre cœur. Dans un tel cas, vous ne pourrez pas prier comme vous le faisiez. Vous ne pourrez pas lire votre Bible comme vous le faisiez. Et vous ne pourrez pas dire à Dieu, j'agis Seigneur d'une manière qui te plaît. Non, tu es en train de taper du pied, tu es en train d'attaquer l'autre. Laissons la paix de Dieu régner dans nos cœurs et dans nos décisions. Donnez le volant à la paix de Dieu dans votre vie. Que la paix de Dieu nous domine. Prions Dieu pour que le pouvoir de cette paix soit constamment sur nous. Parce qu'on est les premiers qui ont besoin d'avoir la paix. Sérieusement, la paix de Dieu, c'est la chose la plus précieuse au monde. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi très pratique. Si nous perdons la paix de Dieu, nous perdons notre faculté de juger dans les circonstances difficiles. Nous perdons notre maîtrise de soi dans les provocations. Nous perdons le meilleur souverain qui n'a jamais eu un sceptre. Si l'homme marche avec Dieu dans la lumière et d'une pleine communion avec lui, il peut entrer dans n'importe quelle rencontre orageuse et turbulente et il saura quoi répondre et quoi ne pas répondre. Il saura quoi faire ou quoi ne pas faire. Il saura quoi dire ou quoi ne pas dire, car la paix de Dieu le maintiendra dans le calme et la tranquillité. Mais une fois que l'esprit de l'homme ou le cœur de l'homme a perdu sa paix, qu'il est déstabilisé, alors il n'a plus aucune force. Il est comme tous les autres hommes. Et vous allez dire ce que vous voudriez oublier. Et vous allez faire ce que vous n'auriez pas dû faire. Quand le repos de l'homme a disparu, on parle, on fait des choses dures qui ne cadrent pas avec la douceur du Seigneur Jésus. On sait que le Seigneur Jésus est doux, mais quand on répond de façon dure aux gens, peu importe c'est qui, ce n'est pas en accord avec la douceur de Christ. Donc, soyez en paix. Soyez en paix avec Dieu en ce qui concerne votre cœur, que les affections de Christ dominent, que vos affections de votre cœur soient dominées par l'amour de Dieu, et c'est alors que vous pourrez livrer les batailles de votre vie avec sagesse et avec calme. Et troisièmement, que la paix de Dieu règne dans son Église. Remarquez que l'apôtre Paul ne dit pas que la paix de Dieu règne dans ton cœur. Hein? Et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. S'il n'y a pas de paix dans l'Église, s'il n'y a pas de paix dans le cœur des croyants, l'Église de Dieu ne peut pas prospérer. Il ne peut pas y avoir de bénédiction là où il n'y a pas de paix. Une maison divisée sur elle-même ne peut pas subsister. Puis une Église qui se dispute est une Église qui se suicide. Et on détruit l'Église lorsque nous nous disputons, lorsque nous refusons de nous pardonner, lorsque nous murmurons les uns contre les autres, que nous nous divisons dans l'Église, dans toutes sortes de groupes. Vous savez, comme Paul disait à Corinthe, il y en a qui disent « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas. » Vous savez, les petites différences sont souvent comme des épines dans la chair. On n'est pas capable de les ôter. Humainement, c'est peut-être impossible. Et la seule façon de tuer les œuvres de la chair, c'est par l'Esprit de Dieu. Que la paix de Dieu règne dans nos cœurs pour le bien de l'Église, comment? Bien, au verset 16, il nous le dit. Je ne l'ai pas lu, mais je le lis pour vous. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Et quelle est cette parole de l'Évangile qui nous donne cette paix, qui nous unit ensemble? C'est l'Évangile. Remarquez ce que Paul dit au verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Dans Éphésiens 2, Paul nous dit que nous étions morts par nos offenses, mais que Dieu nous a rendu la vie avec Christ. Christ est rendu notre paix. Hein? Christ a abattu à la croix les murs d'animosité qu'il y avait entre nous et Dieu et entre chacun de nous. Jésus est appelé le prince de la paix. Son évangile est appelé l'évangile de paix. Donc, quand l'évangile rentre dans nos vies, hein, quand sa parole abonde dans nos cœurs, hein, eh bien, ça abat les murs qu'il y a entre nous et Dieu et entre chacun d'entre nous. Prenons l'exemple de la ville d'Antioche. J'ai déjà conté l'histoire, mais c'est vraiment un bon exemple de comment Dieu abat les murs entre chacun de nous. La ville d'Antioche en Syrie avait au moins 18 quartiers ethniques. Et on avait bâti de grands murs à l'intérieur de la ville pour séparer chacun des quartiers ethniques afin de les protéger les uns des autres. Parce qu'il suffisait d'un incident au marché public pour avoir des confrontations meurtrières en deux groupes ethniques. Mais que se passe-t-il à Antioche? L'Évangile vient. Beaucoup de non-juifs se convertissent. Et l'Église de Jérusalem, on entend parler, envoie Barnabas. Et se passe quelque chose de merveilleux à Antioche. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on appelle les disciples des chrétiens, car pour la première fois, les gens traversent les murs pour adorer ensemble. L'Évangile a amené la paix à des gens qui, autrefois, seraient entretués pour une simple querelle. C'est ça que l'Évangile fait. Lorsque vous aimez vos frères et vos sœurs, au point de couvrir leurs fautes par votre amour, et que vous préférez admirer leurs qualités plutôt que de publier leurs faiblesses, alors Dieu est glorifié parmi nous. Quand nous sommes un peuple heureux et paisible et uni, les gens peuvent dire, voici des gens, des chrétiens qui s'aiment vraiment les uns les autres, et Dieu est glorifié. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à la paix de Dieu. Et c'est très difficile de parler de la paix de Dieu si nous, on ne la connaît pas. Vous savez, il y a eu un litige qui s'est transformé en procès entre deux agriculteurs sur la question de savoir où se trouvait la ligne qui les séparait et où devait se trouver une clôture. Et finalement, l'un des fermiers vendit sa ferme et un acheteur s'installa. Il rencontra bientôt le fermier Smith qui, agité, dit à son nouveau voisin, « On m'a dit que vous avez acheté cette ferme et je veux juste vous informer que vous avez acheté un procès. » Alors, le nouveau acheteur lui demanda de s'expliquer. Lui, il dit, Eh bien, la clôture, à l'endroit où elle se trouve, me prive de 2 pieds de ma terre. Alors, dit gentiment le nouveau acheteur, nous allons la reculer de 4 pieds. Non, non, dit le fermier Smith, c'est plus que ce que je demande. Mais, dit le nouveau voisin, je préfère avoir la paix avec mes voisins que quelques pieds de terre. Alors, le fermier Smith dit très, très calmement, si c'est là ce que vous pensez, la clôture reste là et le procès n'a pas lieu d'être. Est-ce un compromis? Non, c'est une concession. Il a acheté la paix. Il a acheté la paix. Lorsque la paix de Dieu règne dans nos cœurs, la paix avec nos voisins est plus importante que d'obtenir ce que l'on veut. Heureux les artisans de paix. Quelle que soit votre place dans la société, dans la famille ou dans l'Église, soyons les artisans de paix. Que vous soyez un enfant, que vous soyez une personne âgée, que vous soyez un prédicateur ou que vous soyez, je ne sais pas, quelqu'un qui fait la vidéo ou l'audio ou qui passe la mort, vous pouvez être des artisans de paix. Nous sommes appelés à cela. Et pour terminer, soyons reconnaissants. Comment pouvons-nous maintenir la paix dans nos cœurs? Vous savez, à Réunion de prière, j'aime ça parce qu'on a un frère qui est toujours reconnaissant. Et toujours, toujours. Et c'est une inspiration. Moi, ça me dit que je devrais l'être encore plus. Hein? Moi, je vois souvent les problèmes, lui, il remercie Dieu. Hein? C'est, n'est-ce pas, un merveilleux équilibre? Mais en fait, je devrais être plus comme mon frère. Comment est-ce qu'on peut maintenir la paix dans nos cœurs? Soyons reconnaissants. Et c'est ainsi qu'on conservera la paix avec Dieu. La reconnaissance est le résultat final de la paix. En l'absence de paix, nos cœurs deviennent égocentriques et on se plaint constamment de toutes choses et on recherche chacun notre propre intérêt et il n'y a pas de reconnaissance. Quelqu'un qui pense qu'il mérite toujours mieux là, va toujours chialer. Il n'est jamais capable d'apprécier ce que Dieu lui a donné. Ne vous plaignez pas, mais bénissez le nom de Christ pour tout. Ne vous disputez pas avec Dieu, mais soyez toujours reconnaissants. Et comme le dit Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est le moyen d'être en paix avec lui, c'est d'être toujours reconnaissant. Bénissez Dieu pour vos bénitions et pour vos misères. Bénissez Dieu pour vos gains et pour vos pertes. Bénissez Dieu pour vos joies et vos plaisirs. Mais bénissez-le aussi pour vos maux et vos douleurs, parce qu'il ne nous a pas traités selon nos péchés. Soyons toujours reconnaissants. Et si je peux vous laisser un dernier mot, puis j'aime ça, Patrick, et remercier toutes les gens qui ont participé à la pièce. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. C'est très facile de prendre les gens pour acquis. C'est très facile d'être ingrat face aux gens qui travaillent, qui font quelque chose qu'ils ne sont pas obligés de faire. Non? Soyons reconnaissants les uns avec les autres, et c'est ainsi qu'on cultivera la paix parmi nous, au milieu de son peuple, et que Dieu va être glorifié parmi nous et en dehors. Amen. Alors, Seigneur, c'est